Je te préviens. Là, ce soir, puisque je n'ai pas pour partager avec tout le monde qui est là, j'aimerais voir les organisateurs du festival qui peuvent monter ici avec moi. Ils vont partager la cola avec moi. Et ça me ferait aussi plaisir, je ne sais pas s'il est là.
Yves.
Voilà.
Voilà. Il y a Jean-Luc.
Venez là tout le monde.
Venez là tout le monde.
Allez, un morceau pour sur les stades.
On va tout le prendre ensemble. Pour l'instant, ouais. On le dit. Hein.
C'est trop, hein, non.
Ah, ben écoute, ça se mange comme ça.
D'accord. Très bien pour les nouveaux.
Et quand même les ballons, je voudrais bien que vous montiez ici avec moi.
Et Annie, Dominique, Isa.
Ben ouais.
Allez. Et qui des nouveaux mondes un petit peu plus là. Vous êtes là, de l'espace.
Merci.
Allez, viens.
Qu'est-ce que c'est?
La relève. La relève.
C'est
bien. On va tenir la nuit alors.
Bien sûr, après. Hein.
Ils en ont déjà là. Non, c'est bon.
Dominique, il est où Dominique Provin. Il est où Dominique Provin?
Isabelle.
Dominique, viens partager la cola avec nous.
Ensemble, on va tout simplement mettre dans la bouche et mâcher.
C'est énorme, hein,
voilà.
C'est énorme.
Vas-y, mets dans la bouche.
J'en casse.
Oui, voilà.
On veut bien partager.
Il est mort. Tu vois, regarde. Un petit peu. Oui, il monte sur la cola.
Écoute.
Attrapez-moi ça!
C'est beau, quoi. Voilà. Un petit coup à partager.
Je vais en donner un bout à un infirmière. Passe-moi un bout, s'il te plaît.
Et tu peux donner aux gens qui sont là-bas. Merci beaucoup.
Merci, Lima.
Ok.
Merci.
Elle le rendra.
C'est la balle tout le tour. Le tour aussi.
Ok. On va faire plus simple. On est à l'arbre par l'arbre. Je vais pas me mettre là à expliquer, à parler. On va plutôt rentrer dans le système de chez moi, donc des questions et réponses. Alors je crois que le thème c'était liberté et conscience dans la tradition. C'est vaste ça. Ce que je peux faire, vous avez compris un peu ce thème-là, et si vous avez des questions, on y va. Ce serait plus simple. Je suis à vous. Mais on va toujours rester dans la tradition africaine. Hein.
Ouais. Justement, comme moi, pour moi, le mot tradition et mot liberté, c'est un terme en tradition. J'ai l'impression que la tradition va me priver de liberté.
Elle trouve que la tradition et liberté ne vont pas ensemble. Que la tradition, quand on dit tradition, ça prive la liberté. On comprendra en même temps. Oui, dans la tradition, ce sont toujours tous ces yeux coutumes, une façon de se comprendre ensemble. Il y a un proverbe qui est très important chez nous, qui dit « Le collectif soutient l'individu, c'est l'individu qui élève le collectif ». Donc du coup, si on comprend ce proverbe-là, on comprendra facilement que, oui, dans la tradition n'est pas aussi enfermante que ça. La tradition, c'est une base, ça te pose, ça te donne des repères. Et c'est ça son but, te donner des repères. Et il t'est demandé à toi d'avoir cette capacité, cette force d'amener ton individualité, ce que tu es personnellement, avec tout ce qui a toujours été, on te regarde, qu'est-ce que toi tu peux apporter de plus qui te fasse du bien à toi et qui fasse du bien aussi à tout le monde. Et en cela, la tradition chez nous, c'est très très important, tout simplement comme étant un socle. Et c'est là-dedans, je dirais, quand il a fallu que moi je pose le longo, qui est la danse africaine d'ancrage, le longo vient de trois danses initiatiques de chez moi. Oui, je viens dans ma... Chez moi, les choses sont très hiérarchisées. Donc, il y a les gens qui dansent les Ebola, et à d'autres qui dansent le bobongo, et à ceux qui dansent le kimbwa. Donc tout là, ça se mélange pas. C'est vraiment, ça fait des chapelles. Moi, j'ai tout simplement la chance d'évoluer dans ce trois, puisque dans ma famille, il s'est passé des coïncidences que je me suis retrouvé à être dans ce trois, dans cette initiative. Et puis à un certain moment, il est arrivé à moi de commencer à danser. Quand j'ai dansé, je ne dansais plus une seule de ces danses-là. C'était les trois danses qui s'est mélangées en moi. Ce qui était pour moi déjà très compliqué, je me disais, mais qu'est-ce que moi je peux faire, puisqu'en gros, les choses ne se mélangent pas. Puisque voilà, il y a chaque chapelle, et moi, je commence déjà à mélanger un peu le tout. Même dans les compréhensions, il y a ce qui est dit là, je le mélange avec ce qui est dit ici. Donc, Je suis parti trouver les anciens aussi. J'ai des coups de voix là. Il se passe. Ce qui est traditionnellement, je ne peux pas le faire. Mais voilà, il se passe ça. On m'a regardé, on m'a dit, écoute, maintenant tu peux le faire, toi. Comment est-ce que tu peux le faire? Écoute, non, tout simplement parce que voilà, est-ce que tu t'es créé déjà toi-même cette situation-là, d'évoluer dans ce 3-là, ces 3 dans ces initiatives? Ah, donc du coup, ça t'a donné déjà tout ce qu'il faut, tout ce que tu as besoin. Est-ce que maintenant, toi, tu peux amener le plus? Et le plus que tu as amené, c'est de rassembler ces 3-là et en faire un truc qui tient la route. Et donc, du coup, on voit très bien que, oui, je suis dans un truc tradition, mais en même temps, là-dedans, on me donne cette liberté d'évoluer individuellement. Non, souvent, dans nos traditions, où il y a ce poids des yeux coutumes qui sont là, qui sont bien posés. Quand tu évolues là-dedans, tu sens cette liberté qui te donne tout simplement la sécurité. Ça te pose, ça te donne une sécurité, ça te donne des appuis pour te poser tout simplement. Mais si tu oublies que tu es là pour faire évoluer ces traditions-là, c'est là où ça devient compliqué. Donc du coup, les traditions peuvent faire de toi ce qu'elles veulent. Mais les traditions ne sont pas là pour t'avaler. Ils sont là pour te donner les bases. Et à toi d'avoir suffisamment de la force pour élever ces traditions. Donc du coup, non, ça ne s'oppose pas du tout. Ça se marie plus du tout.
Voilà, c'est les...
Tu viens de quelle partie de l'Afrique? Et tu viens de quelle partie de l'Afrique et quelle langue africaine tu parles?
Je viens de l'Afrique centrale, donc du Congo, donc le bassin du Congo. Et ma langue, c'est comme je dis tout à l'heure là, j'ai la chance de bénéficier dans le 3 dans ces initiatives. Je comprends les Kikongo et je comprends les Lingala. Donc du coup, je suis donc plus du Congo, mais dans la région de l'Équateur. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est la région des forêts. Donc je suis plutôt dans la forêt, avec les Pygmées ensemble. La base de ma tradition, c'est que je suis du peuple bantou. Connaissez le mot, vous connaissez tous le mot bantou, parce que c'est ce qui est défini, les gens de, tu prends l'Afrique du centre, donc du centre de l'Afrique jusqu'au sud, tout ce monde-là, on les appelle le monde bantou. Mais bantou, le mot bantou a une signification très importante dans ma langue. Bantou vient du mot Muntu. Et Muntu veut dire celui qui proclame sa filiation avec le Très-Haut. Donc du coup, et là donc, le principe qui anime tout peuple Muntu, c'est le Kimuntu. Donc, que toute ta vie, tu sois absorbé dans cette conscience que tu es. Toute ta vie va être une proclamation de ta filiation avec le Très-Haut. Et ça, c'est la base, ce qui anime tout peuple bantou. Et donc, c'est cette relation avec l'invisible, L'invisible qui est très, très, très important, puisqu'en gros, ça fait partie même de notre appellation. Donc, du coup, si je vais présenter comment mon peuple, je dirais oui, la base de ce qu'anime un monde, c'est sa filiation avec le Très-Haut. Et de là, on peut rentrer dans des spécificités de chaque région, de chaque coin, mais presque tous, on a le même. Je prenais l'exemple, même de l'Africain du Sud, qui est aussi un peuple Muntu. Chez les Africains du Sud, on a des peuples Zulu. Le Zulu, chez moi, ça veut dire l'enfant du ciel. Donc du coup, c'est vraiment cette spécificité que tu as chez tout le monde Bantu, tout le peuple Bantu. C'est cette filiation avec le Très-Haut.
J'ai une question. En fait, ce fruit vient d'un arbre de la terre.
Ah ah.
Parce que, enfin, ça vient d'un arbre, forcément, mais aussi déjà, on est très sûr dans les pays étranges, du coup, autant savoir et c'est un mystère, alors.
En gros, ce sont des petits arbustes. Et on le cueille, donc on n'a pas besoin d'être très grand pour aller chercher, même quand c'est tout petit, tu peux le prendre. Comme toi. Exactement comme toi.
J'ai une question. C'était pour savoir, les enfants, ils sont placés dans quel statut social? Parce que je sais qu'il y a des pays où ils travaillent, mais je sais aussi qu'il y a des pays où ils sont considérés comme des adultes.
C'est très bien ça. Ça, c'est une chose. Ce que chez nous, déjà, le principe de l'enfant. Ça, il y a pas mal d'expliquer déjà comment chez nous on comprend ce principe de l'enfant. Chez nous, tout le monde est enfant. Donc, que ce soit les grands-pères, le petit, le père, tout le monde est enfant. On rentre dans cette conscience de l'enfance tout simplement étant, se définissant comme étant sa filiation avec le Très-Haut, on se dit qu'on est tous les enfants du Très-Haut. Même mon père donc, est l'enfant du Très-Haut. Donc tout le monde est l'enfant. Donc on est tous les enfants de l'univers, tous les enfants. Et en ce sens, ce que demandait un enfant, c'est tout simplement c'est apporter son plus, vivre totalement ce qu'il est. Chez moi, en Afrique centrale, dans mon pays, à moi, l'enfant est roi. L'enfant est roi, tout simplement. Déjà, quand on prend le principe, quand on prend un grand-père, parce que chez nous, on respecte beaucoup les personnes âgées, et les grands-parents, on les appelle coco. Et le même respect qu'on a aux grands-parents qu'on appelle coco, quand on prend le petit-enfant, on les appelle aussi coco. Donc du coup, le même respect que tu as pour ceux qui sont hauts, c'est le même respect que tu as pour les enfants. Et les enfants, chez nous, c'est ce qui fait un peu la richesse de nos traditions, de nos villages. C'est pas longtemps que nos pays aient été rentrés dans le patriarcat. On a toujours été un monde du matriarcat. Donc le chef du village ou le roi n'hérite que par la mère. Donc tuer, c'est comme quand on parle de la tribu. La tribu chez nous on dit Ngodi. Ngodi, c'est la mère. Donc on définit la tribu par rapport à la mère et pas par rapport au père. Donc du coup, si moi je vais hériter quoi que ce soit, j'hérite de par ma mère. Donc du coup, ma mère, s'il a beaucoup d'enfants, ça fait la richesse de sa famille. Et donc du coup, c'est pour ça que chez nous, quand une femme n'a pas beaucoup d'enfants, ça crée beaucoup de problèmes. Parce qu'en gros, on dit la richesse de la famille, ce sont ses enfants qui vont grandir. Et comme souvent, quand tu quittes nos villages, tu rentres dans les grandes cités, bon, ça change, mais dans des villages, tu vas toujours trouver des castes, des gens qui vivent toujours ensemble, des familles, ensemble, les gens ils construisent leur case, chacun autour de l'autre, ils sont tous là ensemble. Et l'enfant est la base, c'est la base, puisqu'en gros, c'est sur lui que se repose tout ce qu'il y a. Moi, on m'a appris, je devais avoir 12 ans quand je suis rentré pour la première fois dans la forêt avec mon grand-oncle. Ce n'était pas nécessairement pour que je puisse chasser avec lui, mais c'était tout simplement pour que je puisse voir comment ça se passe. Et la relation que moi personnellement j'ai eue quand j'étais enfant avec mes vieux, et quand je vois la relation qu'il y a avec les enfants, c'est très important la place de l'enfant, parce qu'en gros, l'enfant, c'est lui qui constitue le futur. Chez moi, on en a tellement besoin. Déjà, on est le peuple de la forêt, on est tout le temps obligé de se protéger. Donc pour se protéger, il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde dans la famille. Donc plus il y a du monde, plus il y a, plus on a les enfants, mieux c'est. Et ces enfants, on essaie de leur donner plus d'outils pour qu'ils puissent grandir et pour qu'ils puissent faire quelque chose de mieux dans leur vie. Ça, je parle de manière traditionnelle. Mais si on entre maintenant, ce qui se passe maintenant, en dehors de la tradition, oui, on a eu un peu une société qui s'est bancalisée. On a des valeurs, maintenant dans nos grandes cités, des valeurs qui viennent d'ici, qu'on essaie d'appliquer là-bas, tant mieux que mal, mais ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas très bien, donc du coup, oui, ça crée beaucoup plus de pauvreté, ça crée beaucoup plus de déchirements dans les familles, et les enfants, des fois, arrivent à être souvent malmenés, et souvent, des fois, ils sont délaissés, puisque les parents, quand on vivait de façon communautaire, où tout le monde se partageait dans la famille, celui qui avait, c'était pour les autres, et qu'on arrive dans les grandes cités où chacun doit essayer de faire de son mieux, et quelqu'un qui a des enfants, donc du coup ça devient difficile pour lui de subvenir, puisque quand ils étaient en communauté, donc tout le monde se partageait les choses, et puis il est obligé de lutter, ben oui, souvent les enfants paye. En disant la situation actuelle en Afrique, donc les enfants subissent tout simplement cette mutation de l'Afrique qui se retourne beaucoup plus vers l'Occident. Ils essayent de tout simplement de faire un peu cette individu. En gros, tu serais étonné quand tu arrives en Afrique, tu sautes. Pour savoir que cet enfant, c'est l'enfant d'un tel, il faut habiter déjà le lieu pour savoir que c'est l'enfant d'un tel. Puisqu'en gros, c'est l'enfant de tout le monde. Il y a... Ma femme, elle est européenne, on est parti chez moi. Quand on est arrivé chez moi, il y avait des gens qui venaient nous voir, qui venaient la voir. Et chaque femme qui venait la voir, qui se disait... Je suis la tante de ton mari. Alors, elle essayait de se demander, c'est la tante de la c'est la soeur du père ou de la mère. Je suis la tante. Et alors, finalement, elle qui avait entendu, je lui avais dit, mon père n'avait qu'une soeur, et puis ma mère, elle avait toutes ses tantes qui défilaient. Alors il me demandait, mais attends, mais cette tante-là, c'est le cousin par rapport à... Je lui écoute, mais tu sais, non. Chez nous, tout le monde, même la maman qui est là-bas, je suis son enfant. Et ça, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais c'est sûr que c'est les choses qu'on commence à perdre maintenant. Et donc, du coup, on entre dans cette individualité où chaque, le père avec son fils, il essaie de se débrouiller, de faire avec son enfant. Et comme les moyens ne suivent pas, des fois, les enfants, c'est très très difficile. Mais t'en fais pas, chez moi, l'enfant est roi. L'enfant a une place très très importante. Soit que vous avez vu déjà des histoires comme Kérékou, des histoires, donc ça donne exactement l'emplacement là où se pose l'enfant. Tout ça parce que même nos vieux, ils savent qu'ils sont rien d'autre que des enfants.
Est-ce que au-delà des traditions est-ce que au-delà des traditions est-ce que au-delà des traditions vous avez étudié aussi les influences des religions, l'islam, le catholicisme, etc. Ça, c'est une première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a d'émigration vers les pays du Nord, France ou autre, et comment se vit le regroupement des anciens en communauté qui veulent garder leurs racines et leurs traditions, et les enfants, les jeunes qui vont à l'école et qui se considèrent plus comme français, alors que les anciens se considèrent plutôt comme africains.
Ça, c'est, en gros, c'est le mal de l'Afrique actuellement. Est-ce qu'il n'a pas fallu que la rencontre se fasse? Si, l'Afrique, quand même, c'est que la rencontre se fasse entre le Nord et le Sud. Est-ce que la rencontre s'est faite de la bonne manière? On ne sait pas, ça c'est l'histoire qui verra. Mais je crois que ça s'est fait comme ça pouvait être fait. Donc, chez nous, on a eu le christianisme. Le missionnaire est arrivé chez nous. Mais la chose est que le missionnaire est arrivé chez nous, il est venu nous faire expliquer Dieu. Mais ce qu'il a oublié, que déjà nous, dans notre nom, c'est que je suis un Moultou, donc je connais Dieu avant que lui m'explique ce que c'est Dieu. Chez moi, quand on parle du monde, tout le monde qu'on voit là, de l'univers, on dit Nza. Nza, c'est l'univers, cet univers manifesté n'est rien d'autre que la projection du pur esprit père-mère. Il y a eu cette incompréhension-là, mais je crois que tout simplement c'est cette incompréhension de celui qui pense savoir plus que l'autre. Il y a quand l'Européen est venu chez moi, il y a une philosophie chez moi, la philosophie de Banza, c'est le partage. Donc rien ne m'appartient, tout appartient à tout le monde. Et c'est comme ça que moi j'ai dit, quand je suis parti avec mon grand-oncle dans la forêt, il est parti, il a tué un sanglier. Il a amené le sanglier au village. Il a pris une partie pour nous. Et il a laissé tous les autres gens du village venir par prendre un petit morceau et chacun. Moi, j'habitais à la capitale, à Kinshasa. Quand je suis arrivé au village, j'ai vu ça, que tout le monde venait se servir. Chaque famille prenait un bout. Et ça, c'est le principe de Banza. À l'opposé de ça, il y a le Mvuanza. Mvuanza, c'est ce qui m'appartient. C'est à moi. L'Européen, quand il est arrivé chez nous, le premier quipoko, ça s'est posé justement à ce niveau-là. Puisque quand il est arrivé, il a dit, écoute, est-ce que je peux prendre ce petit bout de terrain? Chez nous, l'Africain lui a dit, écoute, oui, reste. Mais la chose, lui, quand il a pris le petit bout de terrain, il a mis une clôture. Finalement, l'autre ne pouvait plus rentrer. Donc, il a dit, écoute, c'est chez moi. Donc, il a mené déjà cette notion de Mvuanza, c'est à moi. Et par contre, chez l'autre, il y avait ce principe de Banza, c'est à nous. Le premier type, pourquoi commencer là, déjà. Et après, il y a aussi un truc surtout chez moi, dans mon pays. La relation avec les anciens est très, 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 très importante. Nos vieux mystiques ont toujours dit que quand l'esprit s'en va, il a une couleur blanc-neige. Donc du coup, c'est comme ça que nous, on définit cette couleur de l'esprit quand il s'en va, donc cette couleur de blanc neige. Et donc du coup, tous les vieux, quand ils sont dans leur dans ce monde, dans leur monde, on dit écoute, ils sont dans ce pays de où c'est blanc neige. Et imagine que le premier noir de ce mois, quand ils ont vu l'Européen arriver avec son navire, il a vu que la personne avait déjà une couleur qui n'était pas sa couleur, c'était déjà un peu plus clair de peau. Il s'est dit, écoute, ça sûrement, ça va être où les anciens qui reviennent. Où se sont les envoyés des anciens? Et l'accueil a été fait déjà de cette manière-là. On cueille tout ce qui arrive. Et là, vous comprendrez encore, non seulement à ça, on comprendra ce sens de l'hospitalité chez moi. L'hospitalité chez moi se résume par ces deux mots. Le baka et kaba. Ça veut dire quand je donne, je suis en train de faire le kaba. Et quand je reçois, c'est le baka. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux mots-là? Le ka, c'est ma personnalité. Le ba, c'est le pur esprit par mère lui-même. Ça veut dire que quand je donne le Kaaba, je donne au pur esprit père-mère. Et quand je reçois, c'est le Baka, c'est le pur esprit père-mère qui me donne. Et c'est pour ça que c'est très simple que quand vous arrivez en Afrique, dans des villages en Afrique, quand tu arrives, la personne va te laisser son lit, va te donner tout ce qu'il faut, parce qu'il sait une chose, c'est que il est en train de donner à bas, à Dieu. En gros, tu n'es que l'instrument qui lui permet de rendre grâce. Et c'est pour ça que chez nous, l'Africain n'a pas du mal à recevoir. Je donnerai toujours l'exemple avec ma femme quand on est parti chez nous, sa première fois. Elle arrive, on lui, et les gens viennent, ils n'ont pas beaucoup, mais ils arrivent quand même avec leur petit, c'est ce qu'ils ont pour eux. Voilà. Alors, comme toute bonne Africaine européenne qui se respecte, quand on lui amène le tas de couteaux, ah non, il ne fallait pas. Ah non, 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 il ne fallait pas, non, non, ah non, non, non. Alors les gens ne comprenaient plus rien. Ils sont partis trouver mon grand cousin pour lui dire, écoute, mais on ne comprend pas. La femme de ton frère là, est-ce que tu peux demander à ton frère de nous dire qu'est-ce qu'elle aime? Puisque là, quand on lui donne quelque chose, il dit non, 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 il ne fallait pas. Mais il ne fallait pas. Et moi, j'ai dit, écoute, mais non. C'est que non. Chez eux, c'est la politesse. On me dit, c'est la politesse? Je dis oui. Quand on dit, non, 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 il ne fallait pas. C'est une convention, il ne fallait pas. Mais pour l'autre, chez moi, quand tu dis, il ne comprend pas, comment est-ce que tu ne peux pas vouloir, puisque c'est pas qui est en train de te donner. Tu es la personne. En faisant ce geste-là, ça l'honore déjà d'être l'intermédiaire qui a été choisi pour que tu reçoives quelque chose. Donc du coup, cette notion de Kaba et Baka ont joué un rôle aussi très important dans l'entrée des missionnaires chez nous. Non seulement il y avait le principe de Mwanza et de Banza, et le principe, ils ont pour l'heure un tout petit peu blanquitude, donc ça doit être sûrement les anciens ou les envoyés des anciens qui sont arrivés. Et ils viennent et disent, écoute, on a la parole à vous ramener. Et alors, ils ont en plus de ça une parole à nous ramener. Ils veulent nous enseigner une parole, donc du coup, on reçoit. On reçoit dans le principe de Kaba et Baka. Et le problème est que chacun est resté dans sa compréhension. Nos anciens, quand le missionnaire est arrivé au départ, le missionnaire qui parlait de ça, nos anciens disaient que oui, on sait. Qui parlait de ça, écoute, on sait. Bien écoute, nous, on sait aussi ça. Et le missionnaire écoute, non, 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 ce que vous savez n'est pas bon. C'est nous qui doivent vous donner. Ils ont dit, écoute, toujours par ce respect de Kaba. Et en plus, on ne sait pas, puisque c'est peut-être des envoyés des anciens. Et voilà comment tout doucement le christianisme s'est faufilé. C'est en gros, c'est quelque chose de philosophique et de conscient. Il y avait déjà cette ouverture qui était là. Et de cette ouverture a amené. Voilà. Et donc du coup, l'Européen, quand il voit, l'Africain, ce n'est pas un problème, tu arrives, il te cède la place, il est dans le principe de Kaba et Baka. Comme on lui sait, il s'asseyait, il prenait des aises, c'est un plaisir pour eux de le faire. Ma femme disait, mais c'est pas possible. Quand ils rentrent au pays et les gens ils quittent leur travail, ils viennent toute la journée, ils s'assoient pour dire tout simplement pour savoir si on n'a pas besoin de lui pour qu'il aille aider tout simplement. Et écoute, mais ils ne font rien, écoute, mais ils font déjà beaucoup en faisant ça. Ils sont en train de rendre grâce à bas. Et surtout, par rapport à moi aussi, je suis là. Et cette vision de Kaba et Baka, cette hospitalité, cette vision de Mwanza et Banza ont créé une confusion énorme. Et c'est ce qui a permis, en plus, c'est ce qui a permis vraiment cette entrée des missionnaires dans la forêt tropicale. En gros, rentrer en Afrique de l'Ouest, tout ça, c'était un peu plus simple. Mais la forêt équatoriale, il fallait avoir la bénédiction de ceux qui sont là. Et donc la bénédiction était déjà là. Et ils sont rentrés. D'écoute, et c'est là qu'ils ont raté. Ils sont passés à côté de l'histoire. La belle histoire. La belle histoire des rencontres. La rencontre. Ce partage. Ils étaient dans cette conception d'imposer une vision, alors que la vie, c'est le partage de visions. Et en même temps, bien sûr, ils n'étaient pas nombreux, mais ils avaient la force. Et ils ont imposé. Ils ont posé. Il faut voir que dans nos pays, on a eu tous les grands sages, ce que ici on appelle les sorciers. Chez nous, le nom sorcier, il y a deux mots personnellement qui m'a toujours un peu dérangé. C'est trans et sorcier. Chez moi, le mot sorcier, quand on parle le mot sorcier, si je vais traduire dans ma langue, Likundu, ça veut dire l'absorption vers le nous, la connaissance. Donc le vieux sorcier qui est là, c'est quelqu'un qui est versé dans la connaissance. Et après, oui, quelqu'un qui est versé dans la connaissance, ou alors il reste dans la lumière, oui, ou alors il va dans l'obscurité, oui, ça c'est question des choix. Mais dans le mot lui-même, comment est-ce qu'on va poser les choses? Non, c'est quelqu'un qui est versé dans la connaissance. D'après le mot qu'on prend, l'audition dit sorcier, on dit Likundu. Mais en gros, quand je vois ce qu'on comprend par sorcier et quand on voit ce qu'on comprend par Likundu, ça fait deux mondes. Et de là aussi, on comprend aussi dans le mot. Quand tout ce vieux-là, tous ces sorciers-là, qui avaient la connaissance, chez nous, les hommes n'écrivaient pas. C'est la tradition de l'oralité. Et le problème dans toutes ces traditions de l'oralité, vous êtes là, 50, le vieux va vraiment donner à une seule personne. Ce n'est pas une académie où tout le monde sort avec un diplôme. Le problème est que quand on a commencé, les missionnaires est arrivé, donc la façon, il fallait gommer un peu tout ce monde païen, donc tous ces vieux sorciers-là, comme on avait fait ici avec les Jeanne d'Arc, donc on a eu aussi chez nous notre Jeanne d'Arc. Notre Jeanne d'Arc chez nous s'appelle Tipavita. Vous pouvez prendre le. Vous pouvez aller voir le sur internet, vous tapez Tipavita. Vous allez voir l'histoire de cette femme-là. Tipavita, quand le missionnaire est arrivé, Tipavita, cette femme-là s'est levée là de côté. Non, je crois que votre Dieu n'est pas le bon Dieu. Vous n'avez rien à nous apprendre ici. Et on a essayé de combattre cette femme. Cette femme est partie dans la forêt avec 200 femmes. Avec 200 femmes pendant un an et demi, ils se sont combattus contre les missionnaires. Jusqu'à ce qu'un jour, on les a arrêtés et on a brûlé Chipavita vive aussi, exactement comme on a fait avec les gendarmes. Et c'est là qu'on comprend que quand on prend un vieux sorcier qui a cette sagesse-là, quand on le tue, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais ces vieux-là, s'ils étaient 10 qui avaient cette sagesse, qui avaient cette connaissance, et ce n'était pas écrit quelque part, donc on le donnait dans l'oralité, et quand on tue tous ces gens-là, qu'est-ce qui reste après? Et voilà, il s'est passé ce truc-là. On a eu tous les gens qui avaient ce pouvoir spirituel, ont tous été tués. Et comme ça a été écrit nulle part, il y a quelques-uns qui ont été là, qui ont essayé de faire de leur mieux. Et finalement, ça a mené des dérives pas possibles. Et de là, c'est ce qui a fait encore vraiment asseoir le christianisme. Vu un peu ce trou béant qui s'est posé, donc le christianisme ne pouvait que avoir sa place. Qu'est-ce qu'il a fait, le christianisme? Est-ce qu'il a bien fait les choses? Ou il a mal fait les choses? On ne juge pas, on n'est pas là pour commencer à juger quoi que ce soit. On est là tout simplement pour voir. Est-ce que la rencontre avait été faite? Non, je trouve que la rencontre n'a pas été faite. La vraie, véritable rencontre qui est le partage. Le partage des individus. Chez nous, on dit, tu es là pour partager l'être que tu es. Et on sait qui tu es de la manière de que tu partages ton être. Et que les gens qui t'approchent n'aient plus soif, n'aient plus faim. Et c'est ça, on est dans le véritable partage. Mais oui, je dirais tout simplement que le christianisme, ces missionnaires, comment est-ce que les choses s'étaient posées chez nous, ce n'était pas de la bonne manière. Est-ce que c'était la manière civilisée? Ça, c'est un mot qui est chez vous. C'est vous qui savez très bien ce qui est civilisé ou pas. Mais pour moi, je crois que la manière qui a été faite là-bas chez moi, ça n'a pas été la manière civilisée. Heureusement, chez moi, on a cette chance aussi de croire à la réincarnation. Ce qui rien ne se perd, tout revient toujours. Et sûrement, tous ces vieux-là qui ont été tués, ils sont tous revenus aussi là-bas pour remettre les choses à leur place. Et les choses se remettent à leur place. Et quand tu vas dans la forêt, par exemple, tu vas retrouver les pygmées qui, jusqu'à présent, ont conservé encore le bouti qui est encore là. Où on continue encore à vénérer cette mère terre, ce terre, ciel, avec nos traditions. Oui, c'est un chaos, mais heureusement, c'est la vie n'accepte pas le vide. Ce vide s'est rempli. Et je suis sûr que non, tous ces vieux-là qui sont partis, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire, tous ils sont déjà là. Ils sont en train de reposer les choses autrement. Ça demanderait un peu beaucoup. Ça demandera beaucoup. Même pour ceux qui arrivent, même pour moi-même, ça me demande de faire beaucoup. Ma femme peut témoigner quand je suis chez moi, quand je pars, c'est difficile. C'est difficile de dire aux gens, écoute, voilà, ça se passe comme ça. Chez moi, quand on veut manger, on offre aux anciens. écoute, maintenant, quand tu veux faire chez nous, tu le fais pour toi. Mais non, ça ne se fait pas, parce qu'on est civilisé. On ne fait plus ça. Mais tu ne fais pas vraiment dans des... Ça commence à revenir. Ça prendra un peu de temps. Ça prendra un peu de temps. Mais il faut laisser que toute une génération passe. Il faut que toute une génération, peut-être quelques générations encore, doit passer. Un peu, commencer chez vous ici. Toute une génération doit passer. Quelques générations aussi, ça doit passer. Afin que notre fleur puisse venir, cette fleur de partage véritable entre des gens qui se comprennent, des gens de l'esprit. Et de ça, je suis très, très sûr de ça, puisque ça ne peut pas se faire autrement. Moi, quand je venais ici en Europe, il y a les vieux qui m'ont pris, m'ont écouté, tu sais, sache que la plupart des gens que tu vas rencontrer là-bas, ce sont les gens avec qui tu as connu, tu as rencontré ici. Ils seront très importants dans ce que tu auras à faire. Sache que tu vas les reconnaître. Même quand je dis que deux fois, il y a beaucoup de gens que je rencontre ici, ils sont des fois plus africains que moi-même. Et alors, on voit que la réparation se fait. Donc on n'a pas vraiment du mourant à se faire là-dessus. Ça se fait. Puisqu'en gros, la vérité, on ne peut pas tuer la vérité, elle revient toujours là et sera toujours là.
En parlant de religion, est-ce que vous avez ce principe un peu comme le christianisme, où Dieu aurait fait l'homme à son image, ou parce que je sais que c'est compliqué d'imaginer quelque chose autre que ce qui existe déjà.
Déjà, le mot religion, bon, c'est pas ouf, on peut le tendre puisqu'il est là. Mais tu sais, on n'a pas besoin d'une institution pour être relié. On est déjà relié. Tu es déjà relié avec moi. Ça suffit déjà, c'est déjà pas mal. On n'a pas besoin d'une autre personne en plus pour ça. Donc la véritable religion est là, c'est cette reliance qui est entre nous. Oui. Donc du coup, le mot religion, on peut le mettre de côté. Mais qu'on soit des êtres reliés, oui, nous sommes tous reliés. Si on me dit c'est plus que nous sommes des êtres reliés, qu'on puisse parler de religion, pourquoi pas? Mais ce n'est pas quelque chose qui est là, qui doit imposer quoi que ce soit. Et puis la notion du mal. Là, il y a quelque chose qui a toujours été difficile avec le genre de chez moi. J'ai parlé tout à l'heure, avant de commencer, j'ai dit, écoute, je suis du peuple bantou. Je suis un bantou, celui qui proclame sa filiation avec le Très-Haut. Alors, si je proclame ma filiation avec le Très-Haut, ça veut dire quoi? C'est que je suis l'enfant du Très-Haut. Alors, un père ou une mère, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur enfant? Que du bien. Un père et une mère ne peuvent pas vouloir du mal à leur enfant. Donc, du coup, dans mon principe déjà, chez moi, la notion du mal n'existe pas vraiment en soi. Puisqu'en gros, le pur esprit père-mère, s'il est véritablement ce pur esprit père-mère, et que ce soit l'enfant, ne peut pas vouloir créer un, ne peut pas vouloir autre chose pour moi que du bien. Et on sait là, oui, je peux comprendre, mais comment est-ce que le mal est là? Je suis aussi de cette société où cette notion de la dualité est très importante, mais c'est ce que chez nous on appelle, si je vais le traduire en français ici, c'est ce qu'on appelle la dualité créatrice. Cette dualité créatrice, ça veut dire quoi? C'est que Si je dois proclamer ma filiation avec le Très-Haut, donc il faut je dois savoir exactement qu'est-ce que c'est cette filiation que j'ai avec le Très-Haut. Alors donc c'est quoi? Il n'y a que l'amour, la lumière qui s'étend en moi avec tous les autres. Oui. Mais ceci, je dois l'apprendre par expérience. Donc je dois l'apprendre par l'expérience. Pour que je puisse l'apprendre par l'expérience, il faut quoi? Il faut ce qui est le contraire là-dessus. Et donc du coup, je peux comprendre que le contraire de l'amour soit là. Le contraire de la lumière soit là. Le contraire du bien soit là. Mais pas nécessairement pour que moi, je sois. Ce que moi j'ai à partager personnellement et ce que mes parents ou les parents directs ou le plus respect permet ont à me partager, ce n'est que ce qui est bien pour moi. Donc du coup, ce qui est bien pour moi, c'est ce que moi j'ai à partager. Donc ce qui est mal, c'est tout simplement me faire voir. Puisque si je n'ai que ça, que ce bien-là, et que je suis dans l'expérimentation de moi-même, et je ne vois pas le contraire, comment est-ce que je peux me créer? Je peux me créer que quand j'ai cette dualité-là. Et dans cette dualité, je suis amené à faire un choix. Et le choix que je fais, c'est le choix qui me définit en tant que ce que je suis vraiment, le principe de Kimundo. Je suis l'enfant du Très-Haut, donc ce que je peux partager, ne peut partager que la lumière et l'amour. Pas autre chose. Mais par contre, pour que je puisse savoir que ce que je partage, c'est que la lumière et l'amour, il faut qu'il y ait aussi l'opposé à côté. Donc du coup, et voilà, donc du coup, je parle pour nous, sinon on parle pour le principe, c'est que la notion du mal, tout ça, c'est pas le pur esprit père-mère qui l'a créé, c'est tout simplement nous-mêmes qui avons posé ça là pour notre expérimentation. Puisqu'en gros, sinon, ça va pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vois ici, il y a ici les pères et les mères. Qu'est-ce que vous, les pères et les mères que vous êtes là, par rapport à vos enfants, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Il y a très peu de pères et de mères qui peuvent souhaiter autre chose à leurs enfants. Ils vont plutôt souhaiter leur apporter la sécurité. Et si on est l'enfant de cette totalité, qu'est-ce que cette totalité peut souhaiter pour nous? Ce n'est que ça. Et que oui, je peux comprendre que dans l'expérience, que le contraire soit là. Mais ce contraire est là, pas nécessairement pour m'amener ailleurs, mais tout ça pour me permettre à moi de faire l'expérience de qui je suis. Non, dans ma vision de mon tout, Dieu n'a pas créé le mal.
Ce matin, j'ai assisté à un atelier sur le lango et je voulais savoir ce que ça voulait dire lango et de quoi cette danse s'inspire, quelles sont ses valeurs.
Lango, ça veut dire, le mot lango, c'est l'encre. L'encre, pour se poser quelque part. Et donc le lango, c'est la danse d'ancrage. Et il faut comprendre par cet ancrage, c'est l'ancrage dans l'être. Nous, on revient toujours sur, tout tourne toujours au même endroit. Je suis un Muntu. Muntu, je proclame ma filiation avec le Très-Haut. Donc, je proclame ma filiation avec la lumière et l'amour que je suis. Donc, mon ancrage, c'est mon ancrage dans l'être que je suis, donc dans la lumière et dans l'amour que je suis. Et c'est ça le véritable ancrage. Il y a un mouvement dans le lango quand on danse, c'est l'amour m'installe dans mes propres racines. On danse, l'amour m'installe dans mes propres racines, mais en ayant la connaissance que mes véritables racines ne sont rien d'autre que la lumière et l'amour. Donc mes véritables racines, ce n'est pas avoir des racines qui vont me poser là. Je n'ai pas besoin d'avoir des racines pour être ici. J'ai besoin des racines pour retrouver l'être que je suis. L'être qui va dans la proclamation de ce que je pense être. Et c'est en cela que je rencontre tous les autres. Je rencontre tous les autres, puisqu'on a tous ce même racine-là. Et l'ancrage, je m'installe dans mes propres racines. Et si quand je regarde mes propres racines, ce n'est rien d'autre que tes racines à toi. Ce n'est rien d'autre que des racines à lui. C'est que l'amour et la lumière. Et je rends, j'ancre tout mon être dans ce que je suis, dans la lumière et dans l'amour. Et c'est ça. Et le véritable ancrage. Quand chez nous on parle d'ancrage dans l'être, c'est cet être-là, c'est cet ancrage-là. Ce n'est pas nécessairement un ancrage pour ceci, pour avoir les... Non, c'est cet ancrage dans l'être. Aller dans ce que tu penses. Et cet ancrage de l'être dans l'être, c'est être totalement qui tu es toi et partager l'être que tu es. Et pour qu'on sache que tu es totalement dans ton être, celui qui est totalement dans son être est dans l'abondance. Et quand tu es dans l'abondance, on le voit que ça se partage. Et c'est ce qu'il faut chercher. On cherche à aller dans cet ancrage, dans cet être que nous sommes, et pour se poser dans cette abondance. Et alors, en ce moment-là, que celui qui a faim vienne manger chez toi, que celui qui a soif vienne se désaltérer à côté de toi. C'est ça le véritable ancrage dans l'être. Il y a quelqu'un qui a parlé là, question, quelqu'un parle là.
Oui, j'ai bien entendu par rapport à ces hommes et ces femmes qui étaient défendeurs de sagesse ancestrale par l'oralité et qui ont été élevés. Et le fait qu'ils reviennent par la réincarnation et donc qu'ils ramènent quelque chose. Et du coup, je voudrais soulever. La chose entre la connaissance et le savoir, parce que ce que j'entends au plus profond de moi, c'est que la connaissance vient de l'intérieur en fait, ou vient de là, donc intérieur ou bas, c'est peut-être. Et en fait, je me suis posé souvent ces questions par rapport aux sagesses ancestrales. Comment on peut les faire revenir sans lire des livres, mais en lisant l'intérieur de nos cœurs. Et je pense que c'est ça le travail qu'on a à faire spirituellement, c'est de faire revivre les choses qu'on sent.
Donc, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Il n'y a qu'une chose qui existe, c'est la connaissance. Il n'y a que la connaissance qui soit. Et toute ta vie, tu es amené à prendre conscience de la connaissance. En gros, la connaissance ne bouge pas. C'est ta conscience qui évolue. Tu grandis de plus en plus en prenant connaissance. Et le savoir là-dedans, c'est quoi? C'est tout simplement quand on est dans ce... Cette connaissance qui est là, en gros, la connaissance, ce n'est un rappel. On doit s'en rappeler de la connaissance. On ne peut pas vraiment la... C'est déjà là. Et de là, tu rentres dans ce rappel. Tu dois t'en rappeler, tu dois prendre conscience de cette connaissance-là. En prenant. Et c'est là que tu rentres dans ce savoir. Tu arrives tout simplement à savoir. Et c'est là où la différence véritable est entre le savoir et la croyance. Chez moi, on dit celui qui croit ne sait pas. Moi, je m'appelle Elima. vous savez là que je m'appelle Elima. Si vous sortez là, quelqu'un vous pose la question, comment il s'appelle? Vous qui savez que j'appelle Elima, il s'appelle Elima. Là, vous ne croyez pas. Vous savez que je m'appelle Elima. Mais si tu ne sais pas, tu vas dire, je crois qu'il s'appelle Elima. Donc, il y a la croyance. Chez le peuple bantou, on n'est pas tellement dans la croyance. C'est la connaissance qui est plus importante. Et à toi d'avoir le savoir de cette connaissance-là. Et oui, et ce savoir-là, comment est-ce qu'on peut... Écoute, c'est sûr qu'il y a peut-être des livres qui vont arriver. Peut-être ça va arriver de l'extérieur, quelqu'un va t'amener. Ou peut-être ça va arriver de l'intérieur. Mais je crois que là, ce n'est pas vraiment aussi la question. Si on est vraiment totalement avec nous-mêmes, totalement à l'intérieur de nous-mêmes, on s'ouvre à cette connaissance-là. On s'ouvre à cette connaissance-là. Et tu n'es pas laissé seul. Tu n'es pas laissé comme ça au hasard. La vie s'en occupe et confiance, que la vie s'en occupe et ouvre-toi à la connaissance, mais à la véritable connaissance de l'être que tu es. Et tout se fait. Et les vieux, ceux qui vont arriver, ceux qui vont se réincarner, qui vont amener la connaissance, ils vont l'amener d'une manière ou d'une autre. Ou ils vont te rencontrer. Ou alors ça va passer par quelqu'un. Ou alors ça va être écrit quelque part. Si tu t'ouvres à la connaissance, tu ne vas arriver pas vers ce savoir-là. Tu vas quitter la croyance. Tu vas arriver à aller vers le savoir. Le savoir, ce n'est que la pratique, la mise en pratique de la connaissance. Chez nous, on a toujours dit, il y a la différence quand il y a la connaissance. Après, il y a la sagesse. On écoute, chez nous, les sages, c'est qui? Écoute, tout simplement, c'est celui qui met en pratique la connaissance. Donc, on va tout simplement aller. Le sage, c'est celui qui met la connaissance en pratique. Et on va attendre. Ça, c'est quelque chose qui va s'ouvrir. La connaissance ne peut pas partir. La connaissance est toujours là et sera tout le temps là. Ça peut être voilé des milliers d'années. Mais la connaissance n'a pas bougé, elle a toujours été là. Et c'est à nous, tout simplement, on va s'ouvrir. Et on va aller, plus tu t'ouvres, plus tu vas vers cette connaissance. Et tu en prends conscience. Et tu en prends conscience. Ton savoir de cette connaissance grandit. Et puis tu t'établis là-dessus. Donc oui, ouvre-toi à la connaissance, ouvre-toi à l'être que tu es. Et tout va se poser. Ne t'en fais pas plus qu'en gros, tout est toujours juste.
Dans ta tradition, comment on imagine la
création? Comment on imagine la création du monde, l'apparition de l'homme sur Terre, pour résumer le mythe de l'origine?
Alors, chez nous, on a dit, il y a le grand esprit. J'essaie d'expliquer pas comme ça. Le grand esprit qui est là, dans son silence, terrible. Qui est en même temps ce grand esprit qui est là, avec toute sa totalité. Puis à un moment, il s'est dit, écoute, il ne se passe pas grand chose, est-ce qu'on peut essayer de faire vivre les choses? Et pour que commencer à faire vivre les choses, commencer à ce que la création se passe, chez nous on dit, c'est là où il s'est passé. Que le pur esprit qui était lui-même totalement, il est obligé un peu de se séparer en deux pour s'accoupler en conscience et commencer à poser la création. Donc du coup, et le principe de Bing Bang chez nous, on dit tout simplement, c'est ça là, c'est que c'est ce pur esprit qui s'ouvre, qui se sépare en deux avec ces deux polarités et qui est obligé maintenant en conscience de se s'accoupler pour poser la création. Et alors après on dit, écoute, donc, Et cette création, écoute, c'est sept, c'est tout ce qui est. C'est tout ce qui est. C'est venu tout simplement par cet accouplement perpétuel du pur esprit Père-Mère, qui sont toujours dans cet accouplement, ces serpents primordiaux, comme on dit chez nous, qui s'appuient. Et on est là. Et le Big Bang, nous tous aussi, vous êtes toujours là, tous en train aussi de faire le Big Bang, à chaque fois que vous faites l'amour. Vous êtes dans le principe du Big Bang premier. À chaque fois qu'il y a cet accouplement du féminin et du masculin, ça crée ce Big Bang et ça mène la création. Basiquement, c'est comme ça que je l'ai dit. Donc, le Nzambi Ampungu, quand il a commencé, le Nzambi Ampungu, il s'est posé. Il a dit, écoute, ok, il faut qu'il y ait la multitude. Okay, il faut que je me crée. Donc, je me sépare pour, en conscience, mettre les deux polarités et commencer à créer. Et commencer à créer. Et il est rentré dans cette création perpétuelle. Et il est tout le temps en création. Il ne s'arrête pas. Tout est toujours en création. Et nous sommes aussi, comme nous faisons partie de lui, nous sommes aussi tout le temps en perpétuelle création. Là, je suis dans le côté mythologique un tout petit peu. Est-ce que ça te va là un peu? Merci.
Quand est-ce qu'on se réunit sous l'arbre phallable?
Il y a deux choses. À chaque fois qu'il y a un problème, parce qu'en gros, chez nous, quand il y a un problème, ils sont obligés de se réunir pour trouver la solution. Et une fois qu'on a trouvé la solution, tout le monde dit là. Donc c'est fini. Ou alors, à chaque fois qu'on a besoin d'écouter le vieux parler. Et en gros, c'est tous les soirs presque, on est à côté de la parlable où le vieux parle. Et c'est comme ça que nous, on a appris. Moi, j'ai appris beaucoup plus. Tu es là assis et tu entends le vieux qui parle. Et là, papa, là, pour nous, et là, c'est comme si on allait à l'école, mais nous, c'était donc à côté de l'arbre, à l'arbre. Et c'est là où l'enseignement, du côté de l'enseignement ancestral, s'est passé. Et à chaque fois qu'il y a des conflits à régner, on se retrouve à côté de l'arbre, à l'arbre. À chaque fois qu'on a un renseignement, des enseignements, les vieux ont des enseignements à faire passer, on se retrouve à côté de l'arbre, à l'arbre. Et on verra bien, on entend l'arbre palabre, on pense que quand le son arrive, on commence à palabrer. Non, souvent, c'est les gens ils s'écoutent. Et il y a un principe chez nous qui est très important, c'est l'iwa, la mort. Mais la mort, pas dans le sens qu'on pense, la mort, c'est l'absorption dans l'écoute. Puis chez nous, on dit, quand on meurt, on s'absorbe dans l'écoute de soi-même. Et donc, du coup, tant que dans ta vie, tu peux mourir plusieurs fois, tant mieux. Tant que dans la vie, quand tu meurs plusieurs fois, tu rentres dans l'écoute de toi-même. Et c'est comme ça que tu peux aller te découvrir. En gros, c'est cette mort. C'est pas la mort, vraiment, comme on peut penser, la mort de l'ego, mais c'est tout simplement c'est cette absorption dans l'écoute. À chaque fois que tu t'absorbes dans l'écoute, donc tu quittes ce bruit et tu rentres à l'intérieur de toi. Donc du coup, c'est le tabou palabre où on se rencontre, où les gens sont obligés de parler, mais c'est pendant ce temps-là aussi où les gens s'absorbent dans l'écoute, de ce qui est véritablement. D'où la mort de l'ego, de la personnalité, c'est pour ça qu'on partage la couleur d'abord.
Vous n'êtes pas au Sénégal, je veux bien, mais enfin bon, il y a
doit bien avoir de l'arachide peut-être. Et pourquoi ce choix spécial de cette plante? Et je présume que ça doit avoir une signification. Et si vous la partagez, je présume qu'il doit y avoir une idée derrière.
Exactement. En gros, si nous on part pour un principe basique, c'est que quand on commence par partager le sucré, quand vient la mer, tout le monde part en courant. Donc commençons par partager ce qui est amer. Et quand va venir le sucré, on sera content qu'il y ait du sucré. Et quand le sucré va partir, ça ne nous fera pas un problème de retrouver la mer. Donc du coup, là on est dans ce principe de colère. Et en même temps, c'est tout simplement, on dit, toute notre vie, on est, quand l'esprit regarde, il voit une multitude. Donc il est dans cette peine de la séparation du un. Et la séparation, elle est amère. En gros, l'esprit ne devait voir que un. Mais quand on regarde, il y a la multitude. Et comme il y a la multitude, ça amène une séparation. Donc la séparation est amère. Donc du coup, ça veut dire que, est-ce qu'elle est mauvaise la séparation? Non, elle est amère, puisque je sais qu'à travers cette amertume, la séparation m'indique que j'ai quitté le 1. Donc du coup, je peux revenir. Il faut que je me rappelle de la séparation pour revenir vers le 1. Et en même temps, le 1 qui est là, le 1 qui est là, qui se pose. Et je sais que quand je vais prendre un arbre fruitier pour que je la mangue, ce que je vais mettre dans la terre, c'est le noyau. Il est amer. C'est ce petit noyau-là qui est amer qui va donner cet arbre fruitier avec plein de mangue. Donc du coup, ce partage de la cola est très très important dans tous ces sens-là. C'est qu'en gros, ça nous demande cette humilité. Donc on partage ce qui est difficile, puisque voilà, on est, et quand viendra le sucré, ce sera très bien. Et puis voilà, si le sucré s'en va, ça ne fait rien. On continue à être là. Et en même temps, on sait que, oui, l'amertume, c'est par là que toute la création perd. Si je vais retourner vers le 1, il faut que j'ai cette notion de la séparation. C'est ce qui est, la séparation est amère. Donc du coup, en mangeant cette cola, je suis en train de goûter l'amertume, donc cette amère-là. Et donc du coup, je suis en train de me rappeler qu'en face de moi, c'est un frère ou une soeur qui est en face de moi. Donc du coup, pour qu'on se rencontre, il faut que je mette moi, mon ego en veilleuse, et qu'il mette son ego en veilleuse pour qu'on se rencontre vraiment au seul endroit où la séparation n'est pas. La séparation n'est pas quand nos égos se posent tranquilles, quand on est à l'autre dimension. Et voilà, et aujourd'hui, si j'ai voulu qu'on partage aussi la cola tous ensemble ici. Dommage que on n'a pas pu donner à tout le monde. C'est tout simplement aussi pour ce symbole-là. Le symbole, c'est que voilà, on est séparés. Et c'est déjà assez. Continuons à goûter la séparation. Et sachons que notre but n'est pas d'aller vers la séparation, d'aller vers le un que nous sommes. Et voilà en gros le but de la cola d'aujourd'hui, c'était ça. Ça va?
Dans ce que tu dis, je ressens, je suis là. Dans ce que tu dis, je ressens.
Ok.
Je ressens beaucoup la dimension de la tribu, du nous, du collectif. Et ma question, c'est au niveau du choix amoureux, quelle est la part de liberté individuelle, c'est-à-dire pour la femme que pour l'homme, est-ce que c'est une histoire individuelle ou c'est une histoire aussi de tribu?
Il y a une chose, ce que je disais là, c'est que dans notre vision, il n'y a pas vraiment de séparation de l'individu et du collectif. Donc en gros, tu es le collectif. En gros, tes intérêts personnels, c'est intéressant quand tes intérêts servent tout le monde. Quand tes intérêts ne servent que toi, ça n'a aucune utilité. Ainsi, oui, même pour le mariage, les anciens ont toujours leur, voilà, leur regard là-dessus. Parce qu'en gros, ça demande, surtout dans les pays, chez nous, dans des villages, dans des communautés, où c'est, les gens sont vraiment imbriqués, côte à côte. Quand on vit très loin, ça va. Mais quand on est côte à côte, il faut que l'harmonie soit. Donc cette harmonie, c'est vous deux et le collectif aussi en même temps. Donc oui, en ce sens, on te laisse choisir la femme que tu veux ou on te laisse choisir l'homme que tu veux, mais en même temps, le vieux a aussi le regard, voir est-ce que c'est vraiment bien pour le collectif, cette union-là. Et c'est vraiment c'est ce rôle-là, c'est ce rôle donc de on sert, ton individualité doit servir à élever le collectif. Ton individualité doit servir le collectif avant même que ça te serve toi-même. Donc du coup, c'est pas vraiment aussi un problème avec le choix de mariage. Moi, je me suis marié, je n'ai pas demandé à ma mère et à mon père. Mais bon, ça passait et ça continue à se faire. Que les gens chez nous aussi se marient sans qu'il y ait. Mais quand même, ça doit toujours être là. De savoir que je vais me marier avec toi, oui. Mais sache que en me mariant avec toi, je vais me marier avec tout ton collectif, avec tous les tiens. Et toi, en te mariant avec moi, tu te maries avec tous les miens. Alors est-ce que ça s'emboîte? Ça, c'est impossible. Si ça ne s'emboîte pas, on ne va pas créer tout un monde qu'à nous deux. C'est impossible. Voilà. On va prendre une dernière question.
Je change un peu de secteur. J'habite dans des quartiers en politique de la ville, dans la vallée, et où il y a beaucoup de communautés d'origine africaine, maghrébine, asiatique, et chacune avec ses traditions, sa religion. Et nous, au niveau associatif, nous cherchons à vivre ensemble la différence. Et aujourd'hui, je suis plein d'espérance en t'écoutant, dans la mesure où cette spiritualité fondée sur cette connaissance, cette conscience, cette prise de conscience progressive de cette connaissance universelle, nous est commune et partagée. Mais comment, au-delà de cette peur par rapport à l'islam, par rapport au communautarisme, des replis sur ces traditions ou cette culture, comment pouvons-nous avancer vers un partage de cette sagesse qui nous est sur le fond commune et qui est vécue d'une manière parfois conflictuelle ou disons séparée. Moi je suis plein d'espérance en t'écoutant et comment cette tradition de sagesse que tu nous apportes ce soir peut être partagée davantage dans nos quartiers avec différentes communautés d'origine culturelle ou religieuse, disons plutôt spirituelle.
C'est super ce que tu viens de dire. Alors on verra, on reviendra sur ce que j'avais dit tout à l'heure là. On doit oublier nos religions. On doit totalement oublier, surtout l'Africain doit totalement oublier toute religion importée. L'islam, le vieux malien, quand ça, des années, l'islam ne connaissait pas. Donc du coup, la faute n'est pas tellement à ces jeunes-là. La faute est tout simplement au dogme des religions. Voilà, donc du coup, c'est la base n'est que là. La base n'est que là, puisque tous ces jeunes-là, quand ils rentrent chez eux, moi j'ai déjà vu des jeunes ici, mais quand ils rentrent en Afrique, finalement, ils sont obéissants, puisqu'ils sont sur ces terres-là, ça se passe de cette manière-là. Il y a le grand mal qu'on a pu faire, on a pensé bien faire. Si c'était une bonne idée de créer toutes ces religions, d'essayer d'amener la parole à gauche, à droite, c'était une très bonne idée. Mais je crois que ça n'a pas été fait de la bonne manière. Et tout le mal est là. Donc ce n'est pas les gens qui sont mauvais, ce sont ces religions qui étaient mal parties. L'homme, pour moi, est fondamentalement bon. Il n'est rien d'autre que bon, puisqu'il a été fait, il a été créé, exactement comme le pur esprit Père-Mère, lui-même qui n'est rien d'autre que bon, parfait. Et tu as été créé exactement pareil, tu es parfait et bon. C'est fondamentalement ce que tu es. Et après, c'est tout ce que tu fais tout autour, avec la culture qui vient, avec ce que souvent ça crée beaucoup de confusion, de conflits à l'intérieur de nous. Non, on doit revenir à l'être. On doit revenir, aller comprendre l'être dans ce qu'il anime vraiment. Est-ce que nous qui sommes ici, on peut abolir du jour au lendemain toutes ces religions qui sont là? Je ne pense pas. Mais je crois que on doit tout simplement accepter ces religions telles qu'elles sont là, sachant que elles ont pensé faire du bien, mais finalement, ça n'a pas été ce que le rendez-vous n'a pas été. Donc peut-être qu'on peut commencer, nous, à penser les choses autrement. Mais à penser les choses autrement, c'est sûr. Mais quand tu commences à penser les choses autrement, sache que tu commences à être l'individu qui élève le collectif. Et c'est toujours pas facile. Et c'est toujours pas facile de venir dire à l'égrégore que les choses se passent de cette manière. Alors, moi je dis toujours aux gens, l'égrégore, c'est une chose, c'est que tu es un être libre. C'est que l'égrégore ne peut pas te mettre dans un carcan. Alors, il sait que tu es un être libre. Tu es amené un jour ou l'autre à proclamer ta liberté. Et l'égrégore essaie tout s'arranger. Quand toi tu as pu proclamer ta liberté, il te prend pour une exception. Tu deviens un être exceptionnel. Alors je demande à ce que devenons tous des êtres exceptionnels. Si nous devenons tous des êtres exceptionnels, donc l'égrégore ne peut plus rien faire. Alors toutes ces grandes religions-là ne peuvent plus rien faire non plus. Donc du coup, c'est vraiment une démarche individuelle de chacun de nous qui doit se poser dans son ancrage de l'être, qui doit se poser et ne pas hésiter à dire, à donner son point de vue, le point de vue qui élève. Et quand on est dans ce point de vue qui élève, on doit s'ouvrir plutôt à l'amour qu'à la peur. La peur ne doit pas être là. Et sachant très bien que oui, ce n'est pas sûr que quand tu vas venir avec tes idées, on va tout de suite te dire oui. Ce n'est pas sûr non plus, ce n'est pas gagné. Mais t'en fais pas. C'est par là qu'il faut qu'on y aille. Et ce que tu es en train de faire, c'est par là qu'il faut aller. Et ce que moi je suis en train de faire, oui, il y a des gens aussi de ma communauté, des aussi qui m'aiment bien, d'autres qui ne m'aiment pas, parce qu'ils trouvent que je parle beaucoup plus. Ils sont des fois aussi dans un panafricanisme qui ne tient pas la route. Disons que tout le mal africain, c'est le blanc qui m'a amené ça, c'est nous on a été. Il y a tout ce truc-là. Ce n'est pas non plus, en tout cas moi je leur dis non, ce n'est pas vrai non plus tout ça là. Oui, il y a quelques blancs qui sont venus, qui pensaient. Oui, et ils ont pensé faire ce qu'ils pensaient, qui était bien. Mais finalement, ça s'est mal passé aussi avec les nôtres aussi, les anciens aussi, ils se sont mal compris. C'est pas plus que eux, ils se sont mal compris, que nous, on doit continuer ça maintenant aussi. Donc non, on est amené chacun à être. Propose ce qu'il y a de mieux pour toi, et alors que ça soit mieux pour tout le monde. Chez nous, on dit Boutou et l'amour. Vous pouvez le dire avec moi, Boutou et l'amour. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Merci, maman.
Merci pour la justesse de tes paroles qui amène chacun à avoir sa propre réalité. Vraiment, la justesse.
Merci.
Je vais voir le.
D'accord, tu préfères que ça.
Voilà.
On a dit à. On a dit le matin vers 11h.
Oh, merci. Hein.
Merci.
Vous habitez où ?
Je suis à Paris pour l'instant.
Ah bon ? Vous accepteriez de venir avec beaucoup d'amis qui sont musulmans,
ce sera avec un grand plaisir. Ce sera avec un grand plaisir.
Ah ben ok.
Vous prenez mes coordonnées ?
Oui, oui. On est en recherche de spiritualité partagée entre des amis associatifs avec qui on se bat sur le terrain au niveau de solidarité pour le vivre ensemble. Et on parle aussi des convictions de chacun et